parler de la recherche, on est là pour ça. On en a beaucoup entendu parler, mais que faut-il en retenir pour faire le point et nous y retrouver? Personne n'est mieux placé que le professeur Bruno Dubois, que je vais inviter à me rejoindre, cofondateur de cette fondation Recherche Alzheimer, membre de l'Académie de médecine. Que faut-il en retenir? Alors, à la rédaction de Notre Temps, où je dirige le service santé depuis 25 ans, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce que c'est pour ma mère? Est-ce que c'est pour dans très longtemps? À quel stade de la maladie? Merci de nous aider à y voir plus clair.
Bon, on va essayer de le faire. Merci Agnès. Je vais commencer par vous présenter un livre, parce que si on ne fait pas soi-même sa propre publicité, qui la fera, hein? Donc, je vais vous présenter un livre que j'ai commis il y a quelques années, juste avant d'ailleurs le Covid, et j'ai eu le temps de l'appeler la maladie du siècle. C'était peut-être pas très très habile sur le plan de la communication de sortir un livre sur la maladie du siècle 15 jours avant le Covid. Bon, enfin voilà. Voilà. Alors, non, si je vous montre ça, c'est simplement parce que le titre, je crois, est malgré tout important et redevient important depuis que la parenthèse Covid est un peu maintenant, on peut dire, fermée. On se rend compte que c'est vraiment, cette maladie est vraiment un enjeu. Et pourquoi? Eh bien, je vais reprendre les arguments qui ont été tout à l'heure présentés par Olivier en vous disant que finalement, maladie du siècle, oui, parce que l'allongement de la vie. Et l'allongement de la vie, c'est d'abord une conquête. Il faut se féliciter. On est très heureux. Nos sociétés modernes ont abouti à ce résultat que maintenant, la vie se prolonge. C'est une chance, mais c'est aussi un défi. C'est un défi, d'ailleurs, il faut y penser, pour les générations à venir, parce qu'elles vont avoir à supporter justement cette problématique de ces aînés qui vieillissent et dont certains peuvent avoir certaines maladies. Alors, pour concrétiser ce point, il faut simplement se rappeler qu'au début du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, c'est-à-dire en 1800, l'espérance de vie était alors de 40 ans en moyenne, il est aujourd'hui de 85 ans. Vous voyez, les chiffres sont éloquents par eux-mêmes et on comprend le problème que cela pose. Une jeune fille, un bébé qui naît aujourd'hui, un nouveau-né fille qui naît aujourd'hui, a une espérance de vie de 90 ans. C'est merveilleux. Sauf qu'à 90 ans, quand on a 90 ans, on a 40% de risque d'avoir la maladie d'Alzheimer. Donc vous voyez, on est en train de faire des enfants qui vont exposer naturellement, je dis bien naturellement, au risque de cette maladie. Alors, c'est une maladie de la personne, c'est une maladie de la famille, c'est aussi une maladie de la société, vous le savez, dont la fréquence augmente, bien sûr, au prorata de l'allongement de la vie, et qui pose un problème majeur de santé publique. Et c'est la raison pour laquelle, avec Olivier Ladussette, on a monté cette fondation de recherche sur Alzheimer, qui a maintenant 20 ans, et qui, vous allez le voir, a énormément soutenu la recherche sur cette maladie, puisque, et sachez-le, c'est quand même un résultat dont on est assez fier, eh bien cette fondation, grâce à certains qui sont là, je vois Véronique, je vois Isabelle, enfin il y a plein de personnes qui nous accompagnent, Agathe et d'autres, eh bien grâce à la mobilisation de toutes ces personnes, et grâce à un comité scientifique dont je vais vous parler, eh bien nous sommes les premiers financeurs privés de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Voilà, donc c'est ce qui est noté, voilà les buts de notre fondation et voilà la stratégie qui, je pense, fait la force de cette fondation. C'est notamment l'idée d'un conseil scientifique indépendant et international. Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, parce que quand vous donnez à la fondation, vous pouvez être assuré que l'argent qui sera récupéré ira à des équipes dont les projets ont été évalués par des personnes extérieures. Donc il n'y a aucune espèce de risque de compromission ou d'arrangement entre amis, comme souvent ça se passe dans les conseils scientifiques qui sont nationaux. Alors, pour vous donner un exemple des recherches que nous avons, mais c'est juste pour vous décliner un peu les recherches que nous avons soutenues à la Fondation, je vais peut-être me mettre comme ça pour pouvoir bien le lire. Eh bien, il y a par exemple, on a cherché à répondre à la question comment se propage la protéine amyloïde d'un neurone à l'autre. Alors, je vous parlerai de cette protéine amyloïde, c'est un des deux acteurs majeurs de la maladie d'Alzheimer. Eh bien, on a maintenant la certitude que cette protéine passe d'un neurone à l'autre, puisqu'il y a une fente synaptique, et donc, comme la progression des lésions est une des caractéristiques de cette maladie, il faut donc que ça se propage. Eh bien, des chercheurs se sont posé cette question et ils sont soutenus par la Fondation. Existe-t-il un rapport entre maladie d'Alzheimer et utilisation des pesticides ? C'est intéressant, la question se pose et vous l'entendez, vous l'avez peut-être déjà posée. Eh bien, voilà, eh bien, nous avons soutenu et nous soutenons une recherche qui est faite à partir des données de la MSA, de la Mutuelle Sociale Agricole, qui nous permet de peut-être répondre à cette question. Peut-on doser de nouveaux biomarqueurs dans le sang pour le diagnostic de maladie d'Alzheimer ? Nous en reparlerons et Stéphanie Bombois ici vous en parlera probablement. Et ça fait partie des grandes questions scientifiques qui sont soutenues notamment par la Fondation pour recherche sur Alzheimer. Pourquoi les femmes sont-elles plus souvent atteintes de la maladie d'Alzheimer ? Bonne question. Eh bien là, ce sont les généticiens remarquables de l'équipe de Lille, dirigée par le professeur Jean-Charles Lambert, qui a été soutenue, vous voyez, de façon importante par notre fondation. Les données d'imagerie sont-elles corrélées aux marqueurs du LCR dans une autre maladie qui s'appelle la maladie à Cordelevy ? Vous avez entendu parler de cette maladie ? Eh bien voilà, on essaie de faire la corrélation avec l'IRM. Peut-on traiter la maladie d'Alzheimer avec des molécules déjà existantes ? C'est une question intelligente qui est posée par François Schaeckler, qui est un très très bon chercheur de la région de Nice et de Sophia Antipolis. Voilà, voilà le genre de projets qui sont soutenus par la Fondation. Et encore, voilà, encore un très très bon travail soutenu par la Fondation et qui se déroule à Montpellier, dirigé par Sylvain Lehmann et le professeur Audrey Gabel sur les marqueurs plasmatiques. Eh bien, la Fondation soutient aussi d'autres actions, et notamment l'acquisition de matériel, d'équipements extrêmement sophistiqués, comme par exemple, vous voyez, ce PET IRM, eh bien, qui a été obtenu à la Pitié-Salpêtrière grâce à la Fondation pour recherche sur Alzheimer. Et vous allez voir l'intérêt, par exemple, de cet engin, qui est le premier qui soit dédié aux maladies du cerveau. Ça nous a permis de progresser dans la connaissance des lésions de la maladie. Alors là, maintenant, je vais cette fois-ci faire un tableau plus général de l'avancée des recherches sur la maladie d'Alzheimer. Et nous allons repartir en 1907, lorsque Alois Alzheimer décrit dans le cerveau des patients et de la patiente qu'il a suivie la présence de deux lésions, vous voyez, qui sont représentées ici, les plaques amyloïdes, c'est-à-dire des dépôts d'une substance qui s'appelle la substance amyloïde dans le cerveau des patients, et une modification des neurones, deux lésions qui ont été décrites par Alois Alzheimer. Et pendant plus d'un siècle pratiquement, on était dans une situation très 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 insoluble, qui était que on ne pouvait pas progresser parce que les lésions ne pouvaient être analysées que lorsque l'on vérifiait le cerveau des patients. Donc on n'a pas pu tellement progresser pendant un siècle, car on n'avait pas accès à la preuve, donc aux lésions même, et on ne pouvait même pas faire un diagnostic, puisqu'on ne pouvait pas l'affirmer, car les lésions étaient inaccessibles. Elles n'étaient accessibles qu'une fois que les patients étaient décédés. Et grâce notamment à cette machine que je vous montre, que je vous ai montré juste avant, ce PET scan ou ce PET IRM, eh bien, il était possible de visualiser du vivant des patients la présence des lésions. Ça change tout. C'est-à-dire que maintenant, quand on évoque le diagnostic de maladie d'Alzheimer chez quelqu'un, on peut confirmer le diagnostic en visualisant dans le cerveau soit les lésions amyloïdes, soit les lésions tau, vous voyez que dans le tau qui est en bas. Donc ça veut dire qu'on peut maintenant affirmer la présence de la maladie chez les gens. Ça change tout, et notamment sur le plan thérapeutique, parce que maintenant, et on en parlera à la fin, on a la possibilité de cibler les patients que l'on va pouvoir traiter avec ces médicaments. Donc progrès considérable, on peut maintenant visualiser dans le cerveau des patients. Encore plus fort, on peut maintenant, simplement par une ponction lombaire, qui est un geste, je vous prie de me croire, qui est maintenant complètement banalisé, car on a des petites aiguilles très fines, ça ne fait absolument pas mal, on fait une petite anesthésie locale, et on peut, par une simple ponction lombaire, qui présente beaucoup d'avantages par rapport au PET, à l'examen précédent, qui est d'accès très difficile en clinique, on est très contraint, on ne peut pratiquement jamais le faire. Donc ce qui fait que maintenant on fait cet examen, cette ponction lombaire, on en fait avec Stéphanie Bombois qui est ici, elle en fait dans son service, elle en fait à peu près 500 par an. Donc vous voyez, c'est quelque chose qu'on fait de façon très régulière à la salpêtrière. On retire un peu de liquide et dans ce liquide, on a exactement la même chose, c'est-à-dire qu'on a la concentration des lésions amyloïdes et des lésions tau qu'il y a dans le cerveau. Progrès considérable. On peut maintenant, très facilement, le soir même, on a la réponse, oui, présence ou pas des lésions amyloïdes. Et voilà, par exemple, les travaux qui ont été faits dans le service à la salpêtrière et qui montraient la puissance de ces résultats. 90% des patients Alzheimer avaient la présence de ces lésions. Mais encore plus fort. Et voilà, alors voilà la recherche très actuelle, c'est que maintenant, on se demande même si on ne va pas pouvoir le faire dans le sang. C'est-à-dire que vous avez vu un peu l'évolution. C'était dans le cerveau, on ne pouvait pas. Il fallait attendre que les gens décèdent. Après, on a pu les visualiser du vivant. Après, avec la ponction lombaire, on y avait accès dans les fluides. Et maintenant, on va probablement le faire dans le sang. Et c'est vrai, les résultats sont très, très, très spectaculaires. Vous voyez ? Alors, c'est beaucoup plus intéressant, le sang, parce que, évidemment, c'est moins cher. On n'a pas besoin de faire la ponction lombaire. On n'a pas besoin d'hospitaliser les gens. On fait juste la prise de sang. Sauf que ça nécessite des examens extrêmement sophistiqués, des technologies ultra sensibles, mais ça y est, les résultats tombent, on est sur le chemin. On est sur le chemin d'avoir la possibilité de repérer les lésions de la maladie simplement par une prise de sang. Alors, attention, c'est très très important, c'est de la recherche, mais on se demande si on ne va pas pouvoir, dans un avenir assez proche, le transposer dans la clinique, ce qui permettra deux choses. Premièrement, d'affirmer le diagnostic, ça va être un progrès considérable, il suffira de faire cette prise de sang chez les gens qui sont suspects parce qu'ils ont des anomalies intellectuelles, tu viens de faire cette prise de sang peut-être pour confirmer le diagnostic, mais surtout, on va pouvoir faire de la prévention. On peut envisager la prévention. Alors là, je vous demande de bien comprendre les enjeux qui sont derrière. Pourquoi je parle de prévention ? Je parle de prévention parce que on a montré
il y a déjà des changements,
des lésions dans le cerveau des patients avant même que les symptômes n'apparaissent. Donc ça veut dire qu'on peut aujourd'hui, il y a, comme peut-être ici dans cette salle, peut-être moi, peut-être Olivier, pas vous, vous êtes beaucoup trop jeune, mais il y a peut-être des gens qui ont des lésions de la maladie sans en avoir les symptômes. Donc ça veut dire, si vous m'avez bien suivi, que si on a la possibilité de repérer les lésions dans le sang, on pourrait peut-être, dans l'avenir, repérer des gens normaux qui ont déjà les lésions, mais pas encore les symptômes. Donc, vous voyez, en quelques années, les progrès considérables qu'on a faits par rapport à la situation, on ne pouvait même pas accéder aux lésions. Maintenant, on peut y accéder. On peut y accéder dans le sang, on peut même y accéder chez les gens normaux. Le problème, c'est que le fait d'avoir des lésions ne suffit peut-être pas pour développer la maladie. C'est-à-dire que, imaginons que je me fasse cette recherche, que j'ai effectivement les lésions, ça serait peut-être une erreur de dire, Monsieur Dubois, vous avez des lésions, vous avez la maladie, parce qu'il n'est pas démontré que le fait d'avoir des lésions suffit à déterminer formellement qu'on va évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Et c'est ce que nous avons fait avec Stéphanie Bombois, nous avons fait un travail qui a été publié il y a quelques années, qui montre qu'en réalité, quand on prend des gens âgés, normaux, parfaitement normaux, il y en a 28%, c'est-à-dire 88 sur les 320, qui avaient des lésions. Ils sont normaux. On les a suivis à la salpêtrière pendant 7 ans. Après 7 ans, seuls 16 sur les 88 avaient développé la maladie. Ils avaient à ce moment-là 83 ans, donc ce n'étaient pas des patients tout jeunes. Et bien malgré tout, ils n'ont pas développé la maladie. Ce qui veut dire que le fait d'avoir des lésions ne suffit pas formellement à déterminer qu'on va évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Parce qu'il y a des facteurs de résilience. Je ne vais pas l'expliquer, c'est un peu long, mais on a mis en évidence, très rapidement, on a mis en évidence, par exemple, sur la ligne du haut, là, vous voyez, vous avez des sujets. Ce sont des sujets qui sont amyloïdes. Négatif, il n'avait pas les lésions. Et on a l'enregistrement électroencéphalographique sur 3 prélèvements successifs, sur 3 années successives. Pas de changement. Au-dessous, on a des sujets normaux, qui n'ont pas la maladie. sauf que eux, avaient les lésions. Donc ce sont des sujets stables, mais qui ont les lésions. Et que voit-on ? On voit qu'il y a des changements électriques dans leur cerveau, comme si finalement, ils mettaient en place des mécanismes de compensation pour maintenir la fonction alors qu'il y a une évolution de la structure, une dégradation de la structure. Donc il y a des mécanismes de compensation, c'est ce qu'on appelait le concept de résilience cérébrale. Le cerveau est capable, probablement, de trouver des moyens de maintenir son niveau alors même qu'il y a une altération de la structure. Donc ça veut dire que le fait d'identifier des lésions ne suffit pas à déterminer la prédiction vers une maladie Alzheimer. C'est considérable. Parce que quand j'ai parlé de prévention tout à l'heure, et on va parler de médicaments maintenant, il faudra faire attention, il ne faudra peut-être pas traiter tout le monde, parce que le fait d'avoir des lésions ne veut pas forcément dire qu'on va évoluer vers la maladie. Donc, c'est la raison pour laquelle on travaille, vous voyez, c'est vraiment de la, très 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 actuel, là, c'est vraiment de la recherche. On travaille sur des centres de prévention, des préventions du vieillissement cognitif, sur la base de ce que je vous ai dit, et là je fais un peu la synthèse. Et après, on parlera des traitements. Vous m'accordez encore quelques minutes?
Oui.
Bon, très bien. Bon, problème de santé publique, je vous l'ai dit. Les marqueurs diagnostiques, on les a. La prévention, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de méthodes et d'interventions, comme le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire, comme l'entraînement cognitif, comme les interventions multidomaines, comme la psychoéducation, comme la stimulation cérébrale, comme lutter contre l'isolement social, contre la dépression, contre les troubles de l'audition, etc. Tout ça, ça marche. Et en plus, les traitements arrivent. Donc, quand on résume tout ça, on est dans cette idée aujourd'hui que si on arrive, alors il faut comprendre cette courbe, si on arrive à retarder de 5 ans l'entrée dans la maladie, donc je me remets dans la situation que j'ai définie tout à l'heure, de gens âgés, normaux, mais qui ont les lésions de la maladie. Bon, on ne sait pas s'ils vont évoluer ou pas. Mais sachez que si on arrive à faire de la prévention avec ces méthodes et qu'on arrive à retarder de 5 ans l'entrée dans la maladie, on diminue de 50% le nombre de gens qui la développeront. Donc il y a un enjeu socio-économique considérable, considérable. Donc, j'ai presque fini, mais il faut garder tout ça en tête, c'est compliqué hein, ce topo, hein. C'est un topo compliqué. Parce que je vais aborder maintenant la question des traitements. Aujourd'hui, on a effectivement des traitements qui deviennent vraiment intéressants, je vais vous en convaincre. Il faut surtout regarder la colonne en vert, parce que ce sont les traitements qui sont dirigés contre les lésions de la maladie, et notamment les lésions amyloïdes. Donc, voilà. Donc,
peut-être préciser que chaque petit rond, chaque petit carré, ça signifie qu'une équipe de recherche est en train de faire son travail de recherche.
Exactement.
Ce qui prouve qu'au niveau mondial, il y a énormément d'équipes de recherche mobilisées.
C'est même pas une équipe, c'est un médicament. C'est un médicament. Chaque point correspond à une étude qui est en cours dans la maladie d'Alzheimer. Mais regardez surtout celles qui sont en vert, et notamment celles qui sont, vous voyez, la phase 3, là, au milieu.
Donc la phase 3, ce sont les plus avancées.
Qui sont en train d'être étudiés chez des patients de façon pratiquement pré-commerciale. Eh bien, cette immunothérapie, ça fait 25 ans qu'on en parle, puisque c'est en l'an 2000 qu'on a eu ces premiers résultats extrêmement spectaculaires. Vous voyez ici, sur une souris, entre guillemets, Alzheimer, qui a des lésions dans son cerveau, vous voyez que quand on la traite avec ce qu'on appelle ce fameux vaccin dont vous avez entendu parler, l'immunothérapie, eh bien, vous voyez qu'on entraîne une disparition des lésions. Et quand on a vu cette image en l'an 2000, on a tous cru que ça y était. On s'est dit, on a gagné, puisqu'on arrive à faire disparaître les lésions, on va pouvoir traiter la maladie. Ça a été fantastique, sauf que ça fait référence à une chanson des Beatles, vous connaissez peut-être. The Long and Winding Road. Elle est intéressante, cette chanson, parce que c'est à cause de cette chanson que les Beatles se sont séparés. Mais je viendrai vous en parler une autre fois. Et au début, quand on a essayé l'immunothérapie active, ça a entraîné des méningo-encéphalites. Donc on a été obligé d'arrêter. Catastrophe. Alors on s'est mis à l'immunothérapie passive. Voilà. Que des échecs. Ça a été terrible. Il y a des laboratoires. Le laboratoire Pfizer a décidé d'arrêter. Ils ont fait 4 études. Ils ont perdu des milliards dans cette affaire. Ils ont arrêté. Ils sont allés voir ailleurs. Ils sont allés voir du côté des vaccins du Covid. Voilà. Donc, ça a été terrible. Mais toutes ces études, et Dieu sait qu'il y en a eu, nous ont permis de progresser dans la définition des populations cibles. On s'est mis à étudier non pas des patients très avancés dans la maladie, mais des patients au début, patients débutants. Et c'est là que nos travaux sur la possibilité d'identifier la maladie au début, au tout début, ont été très, très positifs et ont permis de repérer des patients qui étaient probablement les mieux, meilleurs. Les biomarqueurs dont je vous ai parlé, etc., tout ça, ça aboutit au fait que, enfin, ces médicaments sont efficaces. Et ça, c'est ce que je vais vous dire, cette diapositive qui vient, elle est majeure, elle est considérable. Vous êtes assis, restez assis. Ces médicaments sont efficaces sur les lésions, pas que chez les souris, maintenant ça marche chez les hommes. Au début, la concentration des lésions dans le cerveau des patients qui bénéficient de ces médicaments dans les études que l'on fait à l'hôpital, qu'on fait à la salpêtrière. Et vous voyez que, en bas, vous avez en abscisse la durée. Au bout de 6 mois, 12 mois et 18 mois. D'accord ? 6 mois, 12 mois et 18 mois. Au bout de 12 mois, vous voyez que déjà, au bout de 12 mois, regardez en bleu, plus de 80% des lésions amyloïdes ont disparu dans le cerveau des patients. 80%. Et à 18 mois, tous les trois derniers médicaments diminuent en moyenne de 80% les lésions dans le cerveau des patients. Alors, ça, c'est un premier résultat. Mais vous allez me dire, c'est très bien, ça joue sur des lésions, mais est-ce que ça joue sur les symptômes ? Eh bien oui, ça commence à jouer sur les symptômes avec le lecanemab. Alors, le lecanemab, c'est un médicament qui a été autorisé aux États-Unis, qui ne l'est pas encore en France, ni en Europe. On attend pour la fin du mois de juin la réponse de l'Agence européenne qui va déterminer la possibilité de l'utiliser en France. Hein, on va voir, on attend, mais probablement que ça devrait le faire. Alors, quand on regarde de près, vous voyez, vous avez deux courbes. Vous avez une courbe noire, vous voyez, c'est la courbe des gens qui ne sont pas traités. Et au-dessus, vous avez une courbe verte, vous voyez, c'est celle de gens qui sont traités. Et vous voyez qu'à l'arrivée, ça fait quand même une différence. C'est-à-dire que ceux qui sont traités évoluent moins vite que ceux qui ne sont pas traités. D'accord ? Donc ça fait une différence. Mais on peut retourner l'argument. Il continue à s'aggraver. Donc on est en train quand même de parler d'un médicament. Il faut bien comprendre. Quand on va le prescrire aux patients, on va leur dire, bon, vous allez continuer à vous aggraver, mais vous aggraverez moins vite que si vous n'avez pas le traitement. Donc c'est un nouveau concept qu'il va falloir faire comprendre aux gens. C'est un peu comme pour le cancer. Vous savez, au début, vous aviez une durée de vie, je ne sais pas, de 5 ans. Vous dites avec ce traitement, vous aurez une durée de vie de 8 ans. Bon, ça veut dire que, évidemment, vous en mourrez, mais ça va décaler le moment. Donc on est un peu dans cet état d'esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la même chose avec un autre médicament qui est le donanemab. Donc ça veut dire que, pour moi, ces résultats sont considérables. Malgré tout, même si l'effet n'est pas énorme, c'est considérable. Parce que ça veut dire qu'il y a une vraie cohérence entre la cible, qui est les lésions, donc on cible les lésions de la maladie, en diminuant les lésions, on a un effet sur les symptômes, donc ça veut dire qu'on est en train de dérouler la pelote, il n'y a plus qu'à tirer le fil. Alors, il faut progresser, il faut que l'effet soit plus rapide, plus intense, plus efficace, qu'on arrive à bloquer complètement l'évolution. Je ne pense pas qu'on arrivera à revenir en arrière, mais on peut quand même progresser considérablement. Donc, je suis bon espoir que dans les années qui viennent, on va pouvoir progresser. Alors, il faut simplement savoir qu'il y a des complications liées à ce traitement, ce qui fait qu'on va probablement, j'espère que l'Europe va nous l'autoriser, ça veut dire qu'il y aura probablement des restrictions, d'abord sur les patients qui pourront en bénéficier, ça sera forcément des patients relativement débutants dans leur maladie. Et deuxièmement, il faudra qu'ils soient extrêmement surveillés parce qu'il peut y avoir des effets secondaires qui sont potentiellement néfastes. Donc voilà, ça va être très encadré, mais gardez l'idée que non seulement ces médicaments marchent sur les symptômes, sur les lésions, mais commencent à marcher sur les symptômes. Et donc je crois qu'on est en train d'avoir un processus réellement, réellement positif et favorable. Alors, juste pour terminer, et c'est un peu l'emballage final de tout ce que je vous ai dit, parce que quand on croise l'effet de la prévention, l'effet des biomarqueurs et l'effet des traitements. Voilà le paysage moderne que je vous propose et qui s'oppose à ce que la première diapo, où on avait les lésions de l'Alzheimer, qui n'étaient que dans le cerveau, on ne pouvait rien faire. Regardez maintenant où on en est. Si vous avez bien suivi en une demi-heure ce que je vous ai dit. Je pense que ce qu'il va falloir dans un premier temps, c'est régler le problème de la prédiction. Quand il va y avoir des gens comme vous, comme moi, qui vont venir pour savoir s'ils ont un risque, il va falloir qu'on apporte des éléments de réponse. Et pour cela, il va falloir qu'on ait des cohortes de gens qu'on va suivre. Voyez, on va suivre des cohortes de gens qui sont des sujets au tout début, des sujets à risque, des sujets contrôle, qui viendront à l'hôpital et qu'on va pouvoir suivre. Des cohortes. Là, on va faire des bases de données. Et à partir de ces bases de données, on fera des algorithmes. Et on dira, voilà, si vous avez 65 ans, une mère qui a eu la maladie, vous êtes APOE4, vous avez telle et telle chose, hop, vous avez 65% de risque de développer la maladie dans les 3 ans qui viennent. On va pouvoir apporter des réponses. Et là, ça permettra, dans des centres de prévention sur lesquels travaillent notamment Stéphanie et d'autres dans le service à la Salpêtrière, on va pouvoir répondre à la question de gens comme vous ou comme moi qui viendraient à l'hôpital pour connaître le risque personnalisé. Et là, on pourrait appliquer ces algorithmes qui vont être déterminés dans les centres. Et à partir de là, on pourra faire des interventions ciblées et notamment jouer sur des facteurs de risque modifiables ou donner les thérapeutiques et notamment ces traitements. Car moi, dans mon idée, voilà, je fais de la science-fiction, mais dans 5 ou 10 ans, peut-être un peu plus, ces mêmes médicaments dont on est en train de montrer qu'ils marchent peut-être pas trop, commencent à marcher un peu sur les malades, seront peut-être beaucoup plus efficaces sur des gens normaux qui ont des lésions. Car en nettoyant les lésions, on va peut-être à ce moment-là vraiment retarder l'entrée dans la maladie. D'accord ? Encore faut-il, vous avez compris, démontrer que le fait d'avoir des lésions détermine la survie de la maladie. Donc il va falloir cibler les gens qu'il va falloir suivre, c'est-à-dire ceux qui sont à haut risque de développer la maladie, les faire bénéficier de ces médicaments dont je pense qu'ils vont démontrer leur efficacité en prévention pharmacologique. Voilà un peu le modèle. Et sachez, ce sera la dernière diapositive, eh bien que nous sommes en train de construire à la Salpêtrière un grand centre qui s'appelle le centre CERMAD et qui va nous permettre de suivre à la fois ces populations et faire ce centre de prévention des démences que j'appelle de mes voeux depuis maintenant une quinzaine d'années. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup, professeur Dubois.